son hombres y mujeres valientes que organizaron y dirigieron una lucha por defender sus derechos, su raza y su cultura. Eso sí, nunca se rindieron. Hombres y mujeres valientes que organizaron y dirigieron una lucha por defender sus derechos, su raza y su cultura. Eso sí, nunca se rindieron.
106.3 FPP, la jungle des luttes. On commence, on continue. Salut, je crois bien que tu es en ligne, Julien, salut. Allô, oui, bonjour.
Allô,
yes.
Web.
Web, web. Alors, merci de nous appeler, la jungle des luttes sur FPP, pour nous parler du festival des cantines qui a lieu prochainement à Montreuil, à la parole errante, le 30 septembre, c'est ça?
À partir
du 30 septembre, ouais. Voilà. Donc on te propose de nous faire un petit topo sur ce que c'est ce petit festival qui est en train de s'organiser déjà depuis quelques temps et auquel t'as plus d'infos que nous.
Ouais. Et ben écoute, là on est de toutes les façons, moi j'ai pas toutes les infos, c'est un festival co-géré, donc entre pas mal de gens. Mais merci en tout cas d'en passer l'info de ce festival là. C'est un festival donc des cantines autogérées, cantines populaires. C'est un moyen d'échanger des outils, des connaissances, de se coordonner aussi entre différents endroits. Donc c'est divers cantines différentes. Il y en a qui sont ça va de la cantine de quartier pour ceux qui n'ont pas les moyens, ou genre cantine de foyer, ou cantine solidaire, pour pas bouffer tout seul aussi, ou cantine événementielle, sur les événements, souvent des événements militants, ou aussi pour faire de la cantine pour les migrants. Enfin bon, il y a différents collectifs, il y en a qui sont mobiles, il y en a qui ne le sont pas, qui sont fixes. Et voilà, tout ce monde-là va partager pendant 3-4 jours. Donc du 30 au... Enfin, le festival, il est du 30 au 6, donc c'est toute la semaine, du 30 au 6. Et à partir du vendredi, ce sera plus en accès à la boulangerie. Je travaille à la Conquête du Pain. Je fais partie du collectif de la Conquête du Pain à Montreuil aussi, boulangerie autogérée. Et donc nous, on pense être présents. Enfin, on va être présents, ainsi que d'autres boulangeries autonomes ou pas. Enfin bon, c'est un peu pareil. Ça va être des échanges. De problématiques, de techniques, s'appuyer, se rencontrer, partager, et puis faire ce lien aussi entre tout ce monde de la boulangerie et ce monde des cantines, faut voir aussi qu'il va y avoir toute une partie sur la récupération aussi de la des nourritures qui se jettent de par les supermarchés principalement ou les marchés. Comment collecter cette nourriture, mais en même temps pas faire de la bouffe cancérigène avec avec la nourriture qui, enfin la mauvaise bouffe qui est balancée aussi. Donc voilà, il va y avoir pas mal de dynamiques, donc de discussions, des ateliers, des débats, des présentations.
Avec des personnes qui ne sont pas forcément de la région parisienne, évidemment. Il y a des gens qui vont se déplacer depuis plusieurs endroits, peut-être même pas que de France, ça se trouve, non ?
Même pas que de France.
Voilà, ouais. Donc c'est un peu aussi la possibilité de faire grandir un réseau de copains avec des mêmes objectifs, des collectifs avec qui on peut continuer à avoir des liens ou prendre aussi grâce à ça, parce que tout le monde est invité à participer, c'est pas fermé, c'est ouvert tout le temps. Il y a peut-être des réunions qui sont complètement que pour des gens qui ont déjà des collectifs liés, ça, n'importe qui peut aller participer ou se renseigner, etc. Ouais, c'est ouvert tous les jours comme ça, au public ou...
C'était l'idée de la participation de co-gestion, enfin de l'organisation co-gérée. Cette idée inclusive de dire, bon, ben, qui veut rentrer dans l'échange, faire partie du truc. Enfin, c'est pas, il n'y a pas une tête qui mène la ligne. C'est un peu tout le monde, de tous ceux qui ont des envies, des partages, des envies de partage à amener. Ou même juste intéressés aussi, qui n'ont pas forcément quelque chose à partager, mais juste intéressés. Voilà, ils peuvent ou participer à l'organisation ou juste participer aux événements.
Et découvrir un peu ce monde des cantines pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et puis d'autres continuer à appuyer, puisque c'est quand même quelque chose d'important d'essayer de s'organiser autour de la nourriture, la base, l'alimentation.
Exact. C'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est surtout la base, c'est la nutrition, l'alimentation, donc c'est les cantines, c'est les boulangeries, c'est tout ce monde de la nourriture, et de l'échange aussi à travers la nourriture, du partage, de l'appui, de la solidarité à travers ça, quoi. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention, et on espère passer un bon moment. Et donc, c'est à la Parole Errante à Montreuil.
Exact, du 30 septembre au 6 octobre.
Merci à toi et bienvenue à vous tous si vous êtes curieux et que vous avez envie de participer et de donner, partager.
Faire du pain.
Aussi. Merci à toi. À tout bientôt. Ciao. Ouais, merci. Bientôt. On fait une petite pause musicale et normalement on devra avoir le copain basque Arceak au téléphone pour nous parler du contre-sommet G7.
Sí. suene la marimba, la cumbia zapatista, que todos estén alegres y resistan.
Contra el mal gobierno seguimos resistiendo, aunque el ejército haga un infierno. Abre los ojos, mira, hora de despertar. Ya basta gobierno, ya basta sociedad. Renace la Cruz Maya contra la segregación, por la igualdad y la conciencia. La fiesta del caracol, sol, sol, sí, se está tomando la mano, la marimba zapatista.
FPP, la jungle des luttes, merci d'être avec nous, de nous écouter ensemble. On est ensemble jusqu'à 20h30 et là on est avec Artea au téléphone. Non, il n'est pas là au téléphone. Ah mais il ne me l'avait pas dit, Emile, qu'il n'était pas là au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas maintenant? Eh bien, on remet une petite pause musicale, on lui laisse 2 minutes, une toute petite pause, et sinon on enchaînera sur ce qu'on avait prévu.
A nuestros padres y abuelos y nuestros antepasados han tenido que enfrentar duras situaciones de guerra. Desde entonces los pueblos y mujeres valientes que organizaron y dirigieron una lucha por defender sus derechos, su raza y su cultura. Eso sí, nunca se rindieron.
FPP, on reprend la jungle des luttes. On voulait être avec le Pays Basque Nord, mais on n'a pas, ça marche pas là apparemment. Le rendez-vous avait pourtant été pris. On verra plus tard si on peut peut-être en fin d'émission l'avoir. Et donc on va vous parler de ce qui se passe au Mexique aujourd'hui avec les apatistes. Précisément, on peut aussi parler de ce qui se passe en général, comme notamment le soutien et l'attention qu'il faut porter à différents projets comme dans l'isthme de Tehuantepec, avec des projets. Ils avaient déjà lutté contre des fabriques des élevages de crevettes, et là maintenant c'est des projets éoliens, et puis autre part encore d'autres projets. On sait qu'il y a le Conseil national indigène, c'est-à-dire les peuples autochtones au Mexique, qui sont organisés depuis déjà des années aux côtés des apatistes, qui eux aussi demandent le soutien de tout le monde, de la solidarité. Les apatistes nous demandent aussi évidemment d'être attentifs, et donc pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée de ce qui sont les apatistes, juste on va retracer vite fait. C'est 25 ans d'histoire, donc évidemment on peut que résumer. Et donc dans un premier temps, en tous les cas, signaler que c'est un soulèvement des peuples indigènes au Chiapas, au Mexique, en 94, le 1er janvier 94, date emblématique puisque c'est l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis, Canada et le Mexique. Et donc c'était une occasion, une opportunité de pouvoir montrer au monde entier ce qu'il en était de la réalité des peuples indigènes et donc du coup de la possibilité de pouvoir s'organiser, de faire autrement et autre chose, et notamment de mettre en avant le monstre capitaliste qui donc sévit toujours partout sur la planète. Et donc en 94, après la chute du mur, le fait que ça vienne des peuples indigènes dans un recoin du sud-est mexicain, ça avait forcément fait une grande impression. Et d'autant plus une grande impression, c'est qu'ils sont encore organisés aujourd'hui, toujours et encore, avec la possibilité pour eux de justement montrer qu'il est possible de faire autrement, de s'autogouverner, de s'autogérer, de respecter les uns les autres et la nature aussi, évidemment. Et ils ont donc progressé, ils ont créé leur autonomie et ils ont surtout avancé avec la condition que tous les autres peuples, là où ils sont, s'organisent également, puisque eux seuls pourront jamais vaincre le capitalisme, et ça a aucun intérêt non plus d'être fermés et reclus sur soi. Et donc c'est les zapatistes, l'initiative de rencontres intergalactiques, de rencontres des peuples zapatistes avec le monde, avec les peuples du monde, avec chaque année ou chaque deux ans ou chaque cinq ans, des marches mobilisant le pays en entier et plein d'autres personnes vivant dans quatre coins de la planète. Et donc l'intérêt à chaque fois pour les uns et les autres, quand on se rencontre, quand il y a des rencontres, c'est aussi de partager les expériences, puisqu'il n'y a quand même évidemment pas que les zapatistes qui s'organisent, fort heureusement. Et donc l'autonomie, et c'est souvent au cœur du sujet. Et les zapatistes ont donc notamment déclaré en 2003 les Juntas de Buen Gobierno, c'est-à-dire les assemblées de bon gouvernement, qui donc permet, après de 94 à 2003, il y a plus de 10 ans qui se sont passés, et en fait c'est aussi la 10 ans de maturation d'organisation, et même plus encore puisqu'ils s'étaient déjà organisés avant le soulèvement, évidemment, organisés pour soulever, et bien avant d'ailleurs pour se défendre, avant de se soulever. Et donc c'est tout un processus, les zapatistes, c'est quand même l'idée que c'est un processus, et donc il va falloir travailler et regarder sur du long terme. Et donc c'est pas à pas qu'ils avancent, et donc ils ont créé les assemblées de bon gouvernement, c'est-à-dire des gouvernements ouverts à tous et pas seulement aux zapatistes. Donc c'était quand même assez important comme moment. Et puis il y a eu plus tard la sixième déclaration en 2006 où là ils réattaquent aussi le terrain national et international avec la création d'un réseau de lutte anticapitaliste. Et donc ça c'est une démarche qu'ils ont eue depuis le départ et qui n'a fait que s'enrichir. Et donc aujourd'hui justement ils ont fait une nouvelle annonce et donc en fait c'est une progression toujours et encore dans cette possibilité de faire autrement de la politique, de faire autrement, enfin de se relationner autrement, d'avoir une autre relation au pouvoir, et donc de là aussi découle une autre façon de vivre et de pouvoir se maintenir bien en vie et dignement aussi, surtout, ce qui pour les peuples indigènes a été aussi une possibilité de rompre avec le racisme et l'hypocrisie du système. Donc les zapatistes ont mis les pieds dans le plat, et derrière tous les peuples indigènes ont pu suivre aussi à leur façon et créer leur autonomie, ou déclarer leur autonomie qu'ils avaient de façon informelle, mais de pouvoir aussi les conformer de façon officielle, même si les institutions les reconnaissent pas officiellement. Il y a parfois des rapports de force qui font que on ne peut pas nier l'autorité des zapatistes ou d'autres peuples dans d'autres régions, parce qu'il y a une, il y a pas seulement des personnes qui gouvernent et qui se font entendre, mais il y a c'est toute une communauté ou des peuples qui a derrière des porte-parole. Donc ça c'est aussi le mode indigène qui du coup leur façon aussi qui permet de pouvoir prendre des charges et des responsabilités plutôt que du pouvoir, quand on est donc avec une responsabilité à ce niveau-là. Et donc les zapatistes avancent toujours et encore, et on vous propose de lire leur dernier communiqué, l'un des derniers, parce que du coup c'est en général par phase, en général ils parlent quand ils ont quelque chose à annoncer, et donc du coup peut-être avant la lecture on fait une micro-pause, et comme ça après on se lance dans la lecture du dernier communiqué, et ce sera notre copain Tom du comité qui nous lira. 106.3.
Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, Manti. ¿A dónde se fue la uta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur.
FPP, la jungle des luttes, 106.3, on continue avec les apatistes et leur dernier communiqué.
Voilà, donc on va vous lire un des derniers communiqués de l'EZLN, l'armée apatiste de libération nationale. Communiqué du comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'armée apatiste de libération nationale, Mexique, 17 août 2019. Au peuple du Mexique, au peuple du monde, au Congrès national indigène, Conseil indigène de gouvernement, à la Sexta nationale et internationale, au réseau de soutien et de résistance et rébellion. Frères, sœurs et frères, compañeras, compañeros et compañeroas. Voici notre parole. Elle est la même qu'hier, qu'aujourd'hui et que demain, car c'est une parole de résistance et de rébellion. En octobre 2016, il y a presque 3 ans, lors de leur 20e anniversaire, les peuples frères, organisés dans le Congrès national indigène, main dans la main avec le ZLN, se sont engagés à passer à l'offensive dans la défense du territoire et de la terre-mère. Poursuivis par les forces du mauvais gouvernement, par les caciques, par les entreprises étrangères, par les criminels et les lois, comptant les morts, les agressions et les moqueries, nous, les peuples originaires, les gardiens de la terre, avons décidé de passer à l'offensive et d'étendre notre parole et notre action de résistance et de rébellion. Avec la formation du Conseil indigène de gouvernement et la désignation de sa porte-parole, Marie Chuy, le Congrès national indigène s'est donné pour tâche d'apporter aux frères et sœurs de la campagne et de la ville la parole de l'alerte et de l'organisation. Le ZLN est aussi passé à l'offensive dans sa lutte par la parole, par l'idée et par l'organisation. Pour nous, le moment est maintenant venu de rendre des comptes au CNI-CIG et à sa porte-parole. Ce sera à ces peuples de dire si nous avons tenu nos engagements. Mais pas seulement à eux. Nous avons aussi un engagement auprès des organisations, des groupes, des collectifs et des personnes en tant qu'individus, particulièrement de la Sexta et des réseaux, mais pas seulement. Qui, au Mexique et dans le monde, s'inquiètent pour les peuples zapatistes et dont le cœur, dans leur temps, dans leur géographie et à leur manière, continue de battre avec le nôtre, sans qu'importe la distance kilométrique, sans qu'importe les murs et les frontières, ni l'encerclement qu'on nous impose. Nous ne sommes pas faits d'illusions avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Nous savons que le grand chef n'a pas d'autre patrie que celle de l'argent et qu'il dirige le monde et la majorité de ses grandes propriétés qu'on appelle pays. Nous savons aussi que la rébellion est interdite, tout comme sont interdites la dignité et la rage. Mais dans le monde entier, dans ses recoins les plus oubliés et méprisés, il y a des êtres humains qui résistent pour ne pas être dévorés par la machine et qui ne se rendent pas, ne se vendent pas et n'abandonnent pas. Nombreuses sont leurs couleurs, nombreux sont leurs drapeaux, nombreuses sont les langues qui les habillent et gigantesques sont leurs résistances et leurs rébellions. Le grand chef et ses contremaîtres construisent des murs, des frontières et des rideaux de fer pour tenter d'endiguer ce qu'ils disent être un mauvais exemple. Mais ils n'y arrivent pas, car la dignité, la colère, la rage, la rébellion ne peuvent être ni endiguées ni enfermées. Même s'ils se cachent derrière leurs murs, leurs frontières, leurs rideaux de fer, leurs armées et leurs polices, leurs lois et leurs décrets, tôt ou tard, cette rébellion viendra leur demander des comptes, et il n'y aura ni pardon ni oubli. Nous savions et nous savons que notre liberté ne serait l'œuvre que de nous-mêmes, les peuples originaires. Avec le nouveau contremaître du Mexique, la persécution et la mort ont elles aussi continué. En à peine quelques mois, une dizaine de compañeros du Congrès national indigène, conseil indigène de gouvernement, des militos sociaux ont été assassinés. Parmi eux, un frère très respecté par les peuples zapatistes, Samir Flores Soberanes, abattu après avoir été désigné par le contremaître qui, en plus, poursuit les méga-projets néolibéraux qui font disparaître des peuples entiers, détruisent la nature et convertissent le sang des peuples originaires en bénéfice du grand capital. C'est pour cela que, en l'honneur des frères et sœurs qui sont morts, qui sont persécutés et qui sont portés disparus ou en prison, nous avons décidé de nommer Samir Flores est en vie, la campagne zapatiste qui culmine aujourd'hui et que nous rendons publique. Après des années de travail silencieux, malgré l'encerclement, malgré les campagnes mensongères, malgré les diffamations, malgré les patrouilles militaires, malgré la garde nationale, malgré les campagnes de contre-insurrection déguisées en programmes sociaux, malgré l'oubli et le mépris, nous avons grandi et nous sommes devenus plus forts. Et nous avons brisé l'encerclement.
Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Paylahuar. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba, la voz de Caupolicán, levántate, güey.
Et communiquer zapatiste, rompre.
Et nous avons brisé l'encerclement. Nous sommes sortis sans en avoir demandé la permission et nous sommes maintenant de nouveau avec vous, frères, sœurs et frères, compañeros, compañeras et compañeroas. L'encerclement gouvernemental est resté derrière nous. Il n'a servi et ne servira à rien. Nous suivons des routes et des chemins qui n'existent ni sur les cartes ni pour les satellites et qui se trouvent seulement dans la pensée de nos plus vieux aïeuls. Avec nous, les zapatistes, dans nos cœurs chemine aussi la parole, l'histoire et l'exemple de nos peuples, de nos enfants, de nos anciens, hommes et femmes. En dehors, nous avons trouvé une maison, de la nourriture, une écoute et une parole. Nous nous sommes compris comme seulement se comprennent ceux qui partagent la même douleur, mais aussi la même histoire, la même indignation, la même rage. Nous avons compris que non seulement les rideaux et les murs ne servent qu'à la mort, et que l'achat-vente de conscience par les gouvernements est chaque fois plus inutile. Nous ne nous laissons plus tromper. Ils ne nous convainquent plus. Aujourd'hui, s'ils s'oxydent, se brisent, échouent. C'est ainsi que nous sommes sortis. Le grand chef est resté derrière, en pensant que son encerclement nous maintenait enfermés. De loin, nous avons vu ses arrières faites de gardes nationales, de soldats, de policiers, de projets, d'aides et de mensonges. Nous y sommes allés et nous sommes revenus. Nous sommes entrés et nous sommes sortis. Nous l'avons fait 10, 100, 1000 fois, et le grand chef surveillait sans nous regarder, confiant en la peur que sa peur provoquait. Ceux qui nous encerclaient se sont retrouvés comme une tache de saleté, eux-mêmes cernés dans un territoire aujourd'hui plus étendu, un territoire qui répand la rébellion. Sœurs et frères, compañeros, nous nous présentons face à vous avec de nouveaux caracoles et un plus grand nombre de municipalités autonomes, rebelles, zapatistes dans de nouvelles zones du sud-est mexicain. Nous aurons aussi maintenant des centres de résistance autonomes et rebelles zapatistes. Dans la majorité des cas, ces centres seront aussi la base de caracoles, de conseils de bon gouvernement et de municipalités autonomes rebelles zapatistes, MARES. Bien que lentement, et comme cela doit être selon leur nom qui l'indique, les 5 caracoles originaux se sont reproduits après 15 ans de travail politique et organisationnel, et les MARES et leurs conseils de bon gouvernement ont dû eux aussi faire des petits et être attentifs à ce qu'ils grandissent. Il y aura maintenant 12 caracoles avec leur conseil de bon gouvernement. Cette croissance exponentielle qui nous permet aujourd'hui de briser à nouveau l'encerclement est due à deux choses. La première et la plus importante, c'est le travail politique, organisationnel et l'exemple des femmes, des hommes, des enfants et des personnes âgées des bases d'appui zapatistes. Le plus remarquable fut le travail des femmes et des jeunes zapatistes. Des compagnies races de tout stage se sont mobilisées pour parler avec d'autres sœurs organisées ou pas. Les jeunes zapatistes, sans abandonner leurs goûts et leurs préférences, ont appris des sciences et des arts, et ils l'ont ainsi transmis à de plus en plus jeunes. La majorité de cette jeunesse, principalement des femmes, assument des charges qu'elles imprègnent de leur créativité, de leur ingéniosité et de leur intelligence. Nous pouvons donc dire, sans peine et avec fierté, que non seulement les femmes zapatistes vont de l'avant, comme l'oiseau Poujoui, pour nous montrer le chemin afin qu'on ne se perde pas, mais qu'en plus elles sont à nos côtés pour qu'on ne dérive pas, et sur nos arrières pour qu'on ne prenne pas de retard. L'autre, c'est la politique gouvernementale destructrice de la communauté et de la nature, particulièrement celle de l'actuel gouvernement qui s'est lui-même baptisé celui de la quatrième transformation. Les communautés traditionnellement attachées au parti ont été blessées par le mépris, le racisme et la voracité de l'actuel gouvernement, et elles sont passées du côté de la rébellion ouverte ou clandestine. Celui qui pensait qu'avec sa politique de contre-insurrection faite d'aumônes, il diviserait le zapatisme et achèterait la loyauté des non-zapatistes en favorisant la confrontation et le découragement, a donné les arguments qui manquaient pour convaincre ses frères et sœurs que ce qui est important, c'est de défendre la terre et la nature. Le mauvais gouvernement a pensé et pense que les gens attendent sa charité monétaire et en ont besoin. Maintenant, les peuples zapatistes et bien d'autres peuples non-zapatistes, tout comme les peuples frères du CNI dans le sud-est mexicain et dans tout le pays, lui répondent et lui démontrent qu'il a tort. Nous comprenons que l'actuel contremaître s'est formé dans les rangs du PRI et dans la conception indigéniste selon laquelle les originaires aspirent à vendre leur dignité et à cesser d'être ce qu'ils sont, et que l'indigène est une pièce de musée, un artisanat multicolore qui permet aux puissants de cacher la grisaille de son cœur. C'est pour cela qu'il s'attache à ce que ces murs trains, celui de l'isthme et le mal nommé Maya, incorpore au paysage les ruines d'une civilisation pour le plus grand ravissement des touristes. Mais nous, les originaires, sommes vivants, rebelles et en résistance. Le contremaître prétend maintenant remettre au goût du jour l'un de ses caporaux, un avocat qui un jour a été indigène et qui maintenant, comme tout au long de l'histoire mondiale, se consacre à diviser, persécuter et manipuler ceux qui un jour ont été ses semblables. Le responsable de l'INPI se polit tous les jours la conscience à la pierre ponce afin d'éliminer toute trace de dignité. Il pense qu'ainsi il blanchit sa peau et que sa raison devient celle du grand chef. Le contremaître le félicite et il se félicite. Pour essayer de contrôler les rebelles, il n'y a rien de mieux qu'un repenti, converti par un salaire en une marionnette de l'oppresseur.
PP, la jungle des luttes, on continue avec ce communiqué. Durant ces plus de 25 années aujourd'hui, nous avons appris. Au lieu de gravir les échelons des postes du mauvais gouvernement ou de nous convertir en une mauvaise copie de ceux qui nous humilient et nous oppriment, notre intelligence et notre savoir se sont concentrés sur notre propre croissance et notre propre force. Grâce aux sœurs, aux frères du Mexique et du monde qui ont participé aux rencontres, aux frères, pardon, du Mexique et du monde qui ont participé aux rencontres et aux pépinières d'idées auxquelles nous les avons convoquées en ce temps-là. Notre imagination et notre créativité, tout comme notre connaissance, se sont ouvertes et sont devenues plus universelles, c'est-à-dire plus humaines. Nous avons appris à regarder, à écouter et à parler l'altérité, sans moquerie, sans jugement, sans étiquette. Nous avons appris qu'un rêve qui n'englobe pas le monde entier est un petit rêve. Ce que nous diffusons maintenant publiquement est le résultat d'un long processus de réflexion et de recherche. Des milliers d'assemblées communautaires zapatistes dans les montagnes du sud-est mexicain ont pensé et cherché d'autres chemins, modes et temps. En défiant le mépris du puissant qui nous traite d'ignorants et d'imbéciles, nous avons utilisé l'intelligence, la connaissance et l'imagination. Ici, nous les nommons les nouveaux centres de résistance autonomes et rebelles zapatistes, CRARES. Il s'agit de 11 nouveaux centres, plus les 5 caracoles originaux. Cela fait 16. Plus les municipalités autonomes originales qui sont au nombre de 27. Au total, cela fait 43 centres zapatistes. Alors on va symboliquement, c'est important de donner le nom qui a été choisi, même si on va couper la localisation, parce que ça dit rien vraiment pour les gens peut-être. Alors il y a un nouveau caracol, et donc son nom, collectif Le Cœur de Graines Rebelle, mémoire du compañero Galeano. Son conseil de bon gouvernement s'appelle « Sillage de l'histoire pour la vie de l'humanité ». Deux, nouvelle municipalité autonome qui s'appelle Espoir de l'humanité. Autre municipalité autonome qui s'appelle Ernesto Che Guevara. Un nouveau caracol, son nom. Digne spirale qui tisse les couleurs de l'humanité en mémoire de celles et ceux qui sont tombés. Son conseil de bon gouvernement s'appelle Graine qui fleurit avec la conscience de celles et ceux qui luttent pour toujours. Autre nouveau caracol, son nom est « La graine rebelle qui fleurit ». Son conseil de bon gouvernement s'appelle « Nouvelle aube en résistance et rébellion pour la vie et l'humanité ». Nouvelle municipalité autonome qui s'appelle « Semant la conscience pour récolter des révolutions pour la vie ». Nouveau caracol, son nom est « En honneur à la mémoire du compañero Manuel ». Son conseil de bon gouvernement s'appelle « La pensée rebelle des peuples originaires ». Autre nouveau caracol, son nom est « Résistance et rébellion un nouvel horizon ». Son conseil de bon gouvernement s'appelle « La lumière qui fait briller le monde ». Nouveau caracol qui s'appelle « Racine des résistances et rébellions pour l'humanité ». Son conseil de bon gouvernement s'appelle « Cœur de nos vies pour le nouveau futur ». Nouvelle municipalité autonome s'appelant 21 décembre. Nouveau caracol qui s'appelle Jacinto Canek. Son conseil de bon gouvernement s'appelle « Fleur de notre parole et lumière de nos peuples qui se reflètent pour tous ». Sa base, là je le cite parce que c'est important, sa base se trouve dans la communauté du Sidesi Untiera. Et donc, c'est la municipalité officielle de San Cristóbal de las Casas et on y reviendra. Nous en profitons pour inviter la Sexta, les réseaux, le CNI et les personnes honnêtes à venir et avec les peuples zapatistes à participer à la construction des CRARES, que ce soit en fournissant des matériaux et un soutien économique, que ce soit en martelant, en coupant, en chargeant, en orientant et en passant du temps avec nous, ou de la forme et de la manière qui vous semble convenir. Dans les prochains jours, nous rendrons public un écrit dans lequel nous expliquons comment, quand et où vous pouvez vous inscrire pour participer.
La cumbia es la alegría de la cañada.
jungle des luttes, on continue toujours avec la lecture du communiqué zapatiste, le Mexique 2019.
Frères, sœurs et compañeros, nous convoquons le CNICIG pour nous rencontrer et connaître le travail pour lequel nous nous sommes engagés, partager les problèmes, les difficultés, les coups, les évanouissements, mais aussi les graines qui donnent la meilleure récolte de la lutte et celles qui ne donnent plus les meilleures récoltes, mais qui nous amènent à tout le contraire, pour que nous ne les reproduisions plus. Nous nous rencontrerons avec ceux qui font réellement des efforts dans l'organisation de la lutte pour parler des bonnes récoltes et des mauvaises aussi. Concrètement, nous vous proposons la réalisation collective, dans l'un des caracoles, de ce qui pourrait s'appeler « Forum en défense du territoire et de la terre-mère », ou comme vous voudrez l'appeler, ouvert à toutes les personnes, groupes, collectifs et organisations qui s'obstinent dans cette lutte pour la vie. La date que nous vous proposons est durant le mois d'octobre 2019, les jours qui vous conviendront le mieux. De cette manière, nous nous mettons à votre disposition l'un des caracoles pour que se fasse la réunion ou l'assemblée du CNICIG aux dates que vous déciderez. La Sexta et les réseaux, nous vous appelons pour commencer d'ores et déjà l'analyse et la discussion en vue de la formation d'un réseau international de résistance et de rébellion. Pôle, noyau, fédération, confédération, ou comme vous voudrez l'appeler, basé sur l'indépendance et l'autonomie de ceux qui le forment, renonçant explicitement à l'hégémonie et à l'homogénéité, où la solidarité et le soutien mutuel soient inconditionnels, où l'on partage les expériences bonnes et mauvaises de la lutte de chacun, et où l'on travaille dans la diffusion des histoires d'en bas à gauche. Pour cela, comme zapatistes que nous sommes, nous convoquerons des réunions bilatérales avec les groupes, collectifs et organisations qui travaillent dans leur géographie. Nous ne ferons pas de grandes réunions. Dans les prochains jours, nous annoncerons comment, quand et où pourront se faire ces réunions bilatérales que nous vous proposons. Bien sûr, à ceux qui accepteront en prenant en compte leur calendrier et géographie. À ceux qui font de l'art, de la science et de la pensée critique leur vocation et leur vie. Nous vous inviterons à des festivals, rencontres, pépinières, fêtes, échanges, ou comme cela s'appellera. Nous vous ferons connaître le comment, le quand et le où cela pourrait se faire. Cela inclut le comparté ou le festival de cinéma. Mais pas seulement. Nous pensons faire des compartés spécifiques selon chaque art. Par exemple, théâtre, danse, art plastique, littérature, musique, etc. Se fera aussi une autre édition du Conciencias, peut-être en commençant par l'essence sociale. Des pépinières de la pensée critique se réaliseront, peut-être en commençant avec le thème de la tempête. Et, spécialement à ceux qui marchent, avec douleur et rage, avec résistance et rébellion et sont poursuivis, nous convoquerons à des rencontres de proches de personnes assassinées, disparues et enfermées, ainsi que d'organisations, de groupes et de collectifs qui accompagnent leur douleur, leur rage et leur recherche de vérité et de justice. L'objectif sera qu'ils se connaissent entre eux et qu'ils échangent non seulement des douleurs, mais aussi et surtout leurs expériences dans cette recherche. Les peuples zapatistes, nous nous limiterons à être vos hôtes. Les compañeras zapatistes convoqueront une nouvelle rencontre des femmes qui luttent, selon le moment, le lieu et les modalités qu'elles décideront, et elles vous le feront savoir quand elles le voudront et par le moyen qu'elles décideront. Nous vous prévenons une bonne fois pour toutes que ce ne sera que pour les femmes. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous donner plus d'informations jusqu'à ce qu'elles le décident. Nous verrons s'il est possible de faire une réunion d'autroas, avec l'objectif qu'elles partagent, en plus de leurs douleurs, leurs injustices, les persécutions et toutes les autres saloperies qu'on leur fait, leur forme de lutte et leur force. Les peuples zapatistes, nous nous limiterons à vous accueillir. Nous verrons s'il est possible d'organiser une rencontre de groupe, collectif, et organisations défendant les droits de l'homme selon la forme et les modalités qu'ils décideront. Les peuples zapatistes, nous nous limiterons à être vos hôtes.
Zapatista, que todos estén alegres y resistan.
Contra el mal gobierno, seguimos resistiendo. Aunque el ejército haga un infierno, abre los ojos, mira, hora de despertar.
106.3, la jungle des luttes, on continue toujours avec ce communiqué. Zapatistes.
Compagnie Roas et Freur, nous sommes là, nous sommes zapatistes. Pour qu'on nous regarde, nous nous sommes couverts le visage. Pour qu'on nous nomme, nous avons nié notre nom. Nous avons parié le présent pour avoir un futur. Et, pour vivre, nous sommes morts. Nous sommes zapatistes, majoritairement indigènes de racines mayas. Nous ne nous vendons pas. Nous ne nous rendons pas et nous n'abandonnons pas. Nous sommes rébellion et résistance. Nous sommes une de ces nombreuses masses qui abattront les murs, un de ces nombreux vents qui balayeront la terre et une de ces nombreuses graines desquelles naîtront d'autres mondes. Nous sommes l'armée zapatiste de libération nationale. Depuis les montagnes du sud-est mexicain, au nom des hommes, des femmes, des enfants et des anciens des bases d'appui zapatistes et du comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'armée zapatiste de libération nationale, sous-commandant insurgé Moïses, Mexique, août 2019.
Ilumina en la noche el sol y el arco iris, ilumina en el día con todos los insurgentes. Caminan día y noche
mal pagado. No roban coyotes y caciques, salen robando en los precios, en largas jornadas dolorosas. Basta ya de estos robos, cuánto coraje me da. Se convierten en apenas, en pocas monedas tristes, que no alcanza para nada.
La jungle des luttes. Merci Tom pour la lecture de ce communiqué.
Voilà, et donc on tient à préciser que la traduction était collective de ce communiqué, donc on remercie tous ceux qui ont participé à la traduction en français depuis l'espagnol.
Et j'espère que vous avez apprécié toutes ces pauses musicales, pour ceux qui ça nous permettait de respirer aussi, et pour vous assimiler un peu les informations, parce que c'est un peu dense. Il y a beaucoup d'informations. Et c'est aussi plein, c'est des apatistes hein, qui chantent, et donc sous ces petits airs de fleurettes, pour ceux qui comprennent pas les paroles, c'est vraiment des textes politiques qui racontent qui sont eux, les apatistes. Et donc, voilà, ils sont amoureux, ils aiment la musique, ils aiment chanter, ils aiment danser, mais ils sont aussi en lutte, ils défendent leur mémoire, leur culture et l'autonomie, et ils sont vindicatifs également. Et donc, je pense que pour ceux qui connaissent pas du tout les apatistes, je pense que c'était intéressant aussi de voir cette façon de regarder le monde et d'embrasser un peu tous les aspects de la vie en entier. Parce que c'est vraiment l'autonomie qu'ils sont en train de construire et une autre façon de voir et de penser le monde et donc d'aborder toutes les choses de la vie. Depuis l'éducation, la santé, la culture et...
Oui, ils embrassent vraiment toutes les luttes de par le monde. Et puis, dès le début du communiqué, on retrouve aussi cette critique qu'ils font depuis très longtemps de la gauche institutionnelle, et que le fait de croire en un gouvernement de gauche, ici représenté par AMLO, c'est se mettre les doigts dans les yeux. Et que ce communiqué montre bien que... ils sont la bête noire de AMLO depuis longtemps, qui n'a de cesse de les provoquer. Donc on peut citer par exemple le train Maya, qui est un de ces méga projets inutiles qui a été lancé par le gouvernement du président actuel, et pour lequel il a simulé un rituel pour demander l'accord de la Terre-Mère, et ça a vraiment été perçu comme une insulte par les zapatistes. Et donc ce communiqué montre bien que les zapatistes sont là, plus forts et plus nombreux que jamais, et que le président devra compter sur leur opposition farouche à tous ces projets capitalistes, même s'il se dit de gauche, quoi.
Et puis si vous avez bien entendu, ils expliquent aussi où ils en sont, et donc ils expliquent bien qu'il y a une deuxième génération, et que cette deuxième génération, elle est remplie de savoir que n'avait pas la génération d'avant, leurs parents, puisque justement ils sont, grâce à la lutte, ouverts aux autres, à d'autres, et ils ont pu aussi accéder à l'éducation, puisqu'avant, quand on était indigène dans une communauté, en général on avait très peu accès à l'éducation. Et de toute façon, l'éducation était complètement déconnectée de la réalité. La question de la langue aussi, parfois, l'impossibilité de toute façon, tout simplement, de se rendre à l'école. Et donc aujourd'hui, il y a des générations d'enfants, puisque les zapatistes ont mis en place des écoles, des maisons de santé. Ça a été l'une des bases de l'organisation, c'est-à-dire gérer l'alimentation, l'éducation et la santé, c'est une base.
Tout en faisant sécession totale avec le gouvernement mexicain, toujours dans cette volonté d'autonomie.
Autonomie. Et donc de créer une rupture et une autre éducation. Et donc aujourd'hui, il y a une génération donc des jeunes hommes et des jeunes femmes qui n'ont vécu que dans le monde zapatiste et qui ont appris énormément de choses à regarder autrement. Et donc à être d'autant plus fort, c'est-à-dire avec toute cette force d'ailleurs la culture indigène, qui est cette mémoire qu'ils essayent aussi de récupérer, parce qu'il y a des choses qu'on leur a enlevées, qu'on fait partie de tout ce processus de 5 siècles de colonisation, où donc du coup ils sont aussi en train de récupérer leur richesse, leur langue, leur rite aussi pour certains, leur danse, et évidemment de s'enrichir de tout ce qu'il y a autour d'eux. Et toutes ces invitations, c'est vraiment des invitations sincères, cette volonté de partager. Et nous, on a beaucoup à apprendre d'eux, et nous, à apprendre les uns les autres, de nous tous. Et donc, c'est des vraies invitations. Donc, ceux qui ont envie de partager, je pense qu'ils peuvent être attentifs, justement, à ces invitations. Donc, la rencontre des femmes, on a eu l'occasion d'en parler, où ça a été effectivement quelque chose d'énorme.
Voilà, et à noter que cette fois-ci, juste après la rencontre des femmes, il parle aussi d'une rencontre des Otroas, donc en référence à la communauté LGBTQ. Et donc ça, c'est nouveau aussi au sein des, il me semble.
Oui, en termes de rencontre, ça n'a jamais été fait.
Voilà. Par les zapatistes,
ils ont toujours fait appel à un grand nombre de groupes et organisés, étudiants, ouvriers, gays, lesbiennes, trans. Ils ont souvent énuméré, mais ils n'ont jamais créé la possibilité d'avoir un espace où on puisse justement débattre ensemble les uns les autres de ces questions-là, et pas seulement en petits groupes, ou là où on est, parce que parfois on a d'autres problématiques dans d'autres pays, dans d'autres régions, où en tous les cas, certains ont plus avancé que d'autres, ou au contraire, on a tous quelque chose à donner à l'autre de ces expériences de lutte et de rencontres. Et donc, il y a plein de rencontres possibles. On a déjà parlé des festivals de conscientia, de conscience, un jeu de mots entre conscience et partager la science. Il y a aussi le compartir, le même jeu de mots, partager l'art, avec même la possibilité d'avoir différents événements selon les disciplines. Et donc, voilà, ça paraît complètement dingue qu'ils puissent organiser tout ça. Et en même temps, quand on va sur les territoires du Chiapas et qu'on visite les communautés, on voit que ça bouge dans tous les sens. Quand on travaille avec eux, on voit qu'il y a énormément de travail et qu'ils n'oublient pas d'être et chez eux et à la communauté et pour l'organisation et la collectivité. Et donc, on voit bien que c'est vraiment intense d'être zapatiste et que c'est vraiment un travail...
De longue date.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je pense que...
C'est parce qu'ils font aussi une pratique radicale de la démocratie qui, du coup, demande au quotidien, ils demandent de longue haleine, de savoir prendre des discussions, débattre. Et donc, c'est...
Et donc, voilà, on espère que vous avez bien compris où en étaient aujourd'hui les zapatistes. C'est-à-dire qu'on n'en entend pas souvent parler. En général, quand ils se présentent, enfin, quand ils parlent, ils prennent la parole, c'est souvent pour présenter... quelque chose qui a longuement mûri. Certains de nous y étaient en février-mars. On savait qu'il y avait des choses qui se préparaient. Finalement, on n'avait qu'un bout des informations. Donc, c'est rigolo aussi parce qu'il y a quelque chose qui, quand même, se profile pour nous, qui devons nous déplacer. Donc là, du coup, où on va aller, puisqu'il y a tout plein de caracoles qui sont susceptibles de nous recevoir pour que l'on puisse se présenter et discuter de ce qu'on a à discuter quand on a des projets avec les apatistes ou qu'on est dans un collectif, qu'on veut faire des propositions en dehors des activités qu'ils peuvent proposer, auxquelles ils invitent tout le monde. Donc voilà, où on va aller, voilà, il y a tout plein de choses qui vont changer, plein de, en tous les cas, la vraie chose qui change, c'est que c'est la possibilité de se rendre compte qu'il y a effectivement maintenant énormément de gens capables d'avoir des charges politiques et qui ne sont pas seulement liés à l'organisation interne, mais qui sont capables d'être en face à face avec l'extérieur, ce qu'étaient ces caracoles, c'est-à-dire que du coup, comme on le disait, c'est un gouvernement pour tous, donc pas seulement les apatistes.
Oui.
On a eu l'occasion de dire à cette antenne plusieurs fois que c'est une réalité, qu'ils travaillent pas seulement pour des apatistes, qu'ils essayent de régler des conflits de terre ou des conflits liés à des crimes, et donc d'être toujours là pour essayer de trouver une solution dans l'intérêt des personnes elles-mêmes, évidemment. Et donc, voilà, ça c'est une belle preuve que 25 ans, il y a énormément de gens en capacité à faire avancer ces autogouvernements, enfin ces juntas, ces assemblées de bon gouvernement.
Ouais.
On va faire une petite pause musicale et on espère que notre copain Artea nous parlera de ce qui s'est passé, d'une lutte anticapitaliste plutôt à notre niveau ici, au niveau de notre région. Il nous manque à nous organiser plus encore. On vous rappelle qu'il y a le Festival des Cantines justement le 30 septembre jusqu'au 6 octobre à La Parole Errante à Montreuil avec plleusieurs collectifs donc qui travaillent sur la question de la récup pour justement alimenter les cantines. Il y aura une discussion autour du pain également. Donc voilà, du coup, on vous invite à avancer dans la progression de l'autonomie vis-à-vis des pouvoirs, des institutions, et essayer de prendre en charge de plus en plus des choses qui nous regardent pour pouvoir se libérer et vivre mieux, en harmonie tous ensemble. Petite pause musicale. À la jungle des luttes, et voilà, on y était, hein, la lutte contre le capitalisme, c'est tous ces dominateurs, et donc tout ce système contre lequel on peut essayer de chacun, les uns les autres, apporter notre petite graine. Et donc il y a aussi des moments où il faut aussi se mobiliser, se montrer, et l'occasion surtout de se rencontrer pour justement pouvoir grandir ensemble. Et il y avait justement des rencontres, et je crois bien que Arte est avec nous, hein, il est avec nous. Désolé, on s'est raté tout à l'heure, t'es avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
depuis le Pays Basque Nord. Donc, merci d'être avec nous. Et donc, tu es l'un de ceux qui a organisé ce contre-sommet. Du coup, on va peut-être profiter donc, de ton appel pour te laisser te présenter et surtout raconter surtout ce que vous avez fait tous les uns les autres, ce qui vous est arrivé de beau, de pas beau. Voilà, tous les nouveaux rendez-vous éventuels, s'il y en a, et etc., etc. Raconte-nous. Hein. Donc, il y a eu cette initiative, comme il y a souvent donc, des contre-sommets, hein, G20, G7, il y a souvent des contre-sommets. Mais du coup, c'est toujours intéressant de savoir comment ça s'est passé.
Oui, il y a pas mal de choses à raconter. Bon, là, maintenant, c'est l'heure des bilans de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Bilan à plusieurs niveaux, au sein de la plateforme locale donc qui avait proposé le contre-sommet, et puis après aussi dans plusieurs groupes et collectifs qui ont participé ou pas, puisque des groupes s'étaient détachés de la plateforme au fur et à mesure que les préparations avançaient. Des bilans assez compliqués à lire, mais à la fois aussi qui peuvent éclaircir sur la suite, notamment la suite dynamique et des luttes qu'il y a ici au Pays Basque, parce qu'en fait, le G7 a été une étape. Et donc voilà, on en est là, évidemment en fonction un peu des manières de faire ou des idéologies ou des groupes où on se situe. Ben, les bilans ne sont pas les mêmes. Par contre, on pourrait, ça c'est vraiment très schématiquement, dire qu'il y a à peu près deux courants ou deux manières de penser les choses.
Bon, essaye côté, de pas bouger vrai. Comme t'es avec ton portable, je m'excuse, d'accord. Peut-être que ouais. Y a là, c'était bien tout à l'heure, mais
okay.
Je te remercie, désolé.
Ouais. du coup, ouais, à peu près, on va dire deux visions du contre-sommet lui-même. Il y a des organisations qui tirent un bilan globalement positif, d'autres moins. Bon, faut savoir que les conditions étaient assez difficiles, hein, puisque le gouvernement a vraiment mis des moyens colossaux pour réussir son sommet.
Autant, et empêcher, empêcher la mobilisation extérieure. Ouais.
Et voilà, puis après, en fait, il y a eu tout un processus d'une plateforme large, qui consistait avant tout à essayer d'additionner des forces, qui était un peu, on va dire, le premier acteur ou le premier organisateur anti-G7, et où en fait, autant dans son parcours qu'après dans le résultat du contre-sommet lui-même, bon, il y a pas mal de divergences quand même qui sont apparues. Ce qui a fait qu'en fait, bon, le contre-sommet lui-même a été assez, assez bizarre, on va dire, dans la mesure où il ne s'est pas passé ce qui aurait pu se passer dans notre contre-sommet antérieur, dont on avait un peu les précédents. Et en gros, Macron a tenu son sommet à Biarritz, on va dire sans entrave. Par contre, le travail et les mobilisations qu'il y a eu contre lui ont-elles été assez entravées, quoi, en fait.
Ouais. Du coup, ça a été difficile d'avoir réellement des rencontres porteuses avec des objectifs communs. C'était un peu difficile de se rencontrer.
Voilà, ça a été une espèce de salade russe, en fait, hein, où, on va dire, plein de courants militants différents, qui parfois travaillent ensemble, parfois pas, se sont retrouvés un peu dans un même rendez-vous. Puis avec plusieurs problèmes qui ont découlé, quoi. Alors,
oui, parce
évidemment,
que ça a été compliqué de se le rendez-vous, de se trouver ce rendez-vous, ce propre rendez-vous au départ, non?
Alors, il y a des choix qui ont conditionné ça aussi, hein, parce que en fait, la plateforme a choisi, on va dire, la voie de la négociation avec les autorités pour
donc
obtenir lieu. Obtenir aussi des manifestations déclarées. Il y a eu des conférences, il y a eu des rencontres, mais après, au-delà de ça, on va dire, la mobilisation plus offensive, ou en tout cas, qui avait une visée plus de perturber le sommet lui-même, en fait, elle a été, d'une part, totalement
isolée
par les forces de l'ordre, mmh. puisqu'il y en avait à peu près 20 000 sur un petit territoire qui était déjà là.
En amont, bien sûr. Avant. Ouais.
Et après, au moment même, en fait, toute cette diversité, en fait, elle a pas trouvé de moment de complémentarité vraiment pour aller de l'avant. Donc, ça a été quelque chose d'assez vivant et intense, mais à la fois, beaucoup de gens en tirent un sentiment en fait, de par les conditions préalables et de par aussi ces journées-là où, en fait, pratiquement impossible de s'approcher de Biarritz, en gros. Et puis, le peu de tentatives qu'il y a eu, à vrai dire, on finit vraiment nassé. Il y a eu énormément de contrôles, de gens mis en garde à vue, alors que finalement, les manifestations elles-mêmes, la presse nous avait annoncé l'arrivée massive de manifestants violents, et en fait, le paradoxe, c'est que tous les gens qui ont été arrêtés n'ont pas été arrêtés sur des faits qu'on pourrait qualifier de violence. Même quoi, ça a été des arrestations surtout préventives, toujours en vue d'eux. Et voilà, maintenant c'est l'heure des procès aussi. Il y a à peu près 45 personnes qui sont convoquées, et actuellement il y a 5 personnes aussi qui sont en prison, donc qui ont été arrêtées avant ou pendant les jours du contre-sommet.
Ouais, donc ça c'est important aussi de suivre ce qui est en train de se passer pour ces personnes-là, puisque souvent on en parle au début et à moins d'être très proche, on finit par oublier, parce qu'il y a malheureusement un grand nombre de moments de répression, et donc mais c'est important, ouais, de le signaler. Et peut-être, je sais pas, vous avez peut-être un besoin de soutien de quelque chose. Il y a un collectif qui s'est monté, j'imagine. Pour suivre ces cas-là, où c'est des personnes qui sont justement éparpillées sur toute la France, puisque...
Alors, il y a une Legal Team qui a travaillé pendant 8 mois, qui a fait un travail assez colossal, sur un précédent quand même d'une grosse ampleur, et puis avec, on va dire, une première aussi. C'est-à-dire, pour l'instant, au Pays Basque, il n'y avait pas... de Legal Team tels qu'on les connaît dans d'autres endroits de l'État français. Et bon, c'est elle qui a fait quand même le gros suivi des arrestations, des procédures. Maintenant, il y a des procès jusqu'en décembre à peu près. Alors c'est par grappe, par exemple, là, vendredi prochain, il y a 12 personnes qui sont convoquées à Bayonne. La plupart des procès se tiendront à Bayonne.
Oui.
Et évidemment, c'est des gens d'un peu partout. Hein,
oui, c'est venus, ça. Ok, oui.
Qui étaient venus se mobiliser, et puis voilà, qui ont fini
au panier attrapé à salade, dans le filet. Voilà, pris dans le filet.
Voilà, puis après, d'une manière plus politique, on va dire, en fait, ça a ouvert un débat assez fort, la tenue de ce contre-sommet, notamment sur les moyens d'action, les objectifs, la question de la désobéissance,
les limites,
de la légitimité, de la violence, non-violence. Mmh. Bon, tout ça a été un moment très, très, très représentatif, en fait, de tous ces courants-là.
De cette réalité, ouais, qu'on est en train de vivre aussi, justement, de cette difficulté à pouvoir avancer ensemble, mais peut-être avec chacun des modes différents. Je sais pas si on peut y arriver, mais peut-être que ce serait une possibilité. Je dis ça par exemple, c'est parce que c'est des débats qui reviennent quand même assez régulièrement, comme assez le cas emblématique un peu de Notre-Dame-des-Landes, justement, où il y a eu pendant très longtemps des conflits internes justement par rapport à cette question, mais finalement l'objectif final étant plus grand que le débat interne, bon ben on essaye d'avancer avec chacun son mode.
Alors, concernant le Pays Basque, en fait, il y a un débat assez spécifique aussi. Sur.
En plus, oui, c'est ça, se rajoute, bien sûr.
Alors, si je peux l'expliquer.
Bien sûr, tu as 5 minutes sans problème, tranquille.
D'accord. C'est qu'en fait, bon, il y a un processus de paix qui a été enclenché. Après, on va dire, une lutte violente. Après 40 ans de lutte armée, de combat de rue. Et en fait. Il y a, on va dire, une grosse partie du mouvement indépendantiste qui a choisi d'autres voies depuis maintenant à peu près 10 ans et qui donc maintenant table plus ses campagnes, ses revendications autour, on va dire, de luttes appelées pacifistes, démocratiques, institutionnelles. Et en fait, ce sommet-là, il est arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe, pour tout le monde aussi. Je rajouterais que les mouvances anticapitalistes locales, même si elles sont nombreuses, elles sont assez éparpillées. Et du coup, ça a fait que les deux situations-là n'ont pas permis, en fait, de pouvoir mettre en place un contre-sommet vraiment, on va dire, mobilisateur d'un côté. Il y avait aussi le climat de peur, de psychose qui a mis le gouvernement, mais aussi, on va dire, des débats internes assez difficiles pour savoir comment répondre à ce G7-là, quoi. Et donc, tout ça, en fait, voilà, ça s'est vu pendant ces journées-là, notamment dans un camp à Urugne, qui en plus avait été cédé par l'administration elle-même, le camp du contre-sommet, donc, qui était un peu loin de tout, on va dire, où là, en fait, plein de gens se sont retrouvés, beaucoup de gens étaient venus avec une idée supplémentaire, c'est-à-dire non seulement aller écouter des conférences ou participer à une manif déclarée, et aussi se mettre en branle, quoi, en fait, contre l'État policier, contre l'État de Macron. Et bon, voilà, tout ça, ça... Certains, on pense que, voilà, on n'a pas bien géré le truc, quoi, en fait. On n'a pas bien géré le truc. Et bon, malgré ça, il y a eu quand même beaucoup de rencontres, beaucoup de débats. Mais quand même, ouais, un sentiment assez d'échec, quoi, hein, par rapport au G7 lui-même, une belle leçon en fait, et puis surtout...
Ouais, c'est ça, moi j'ai envie de dire, le mot d'échec, c'est pas bien, par contre, on apprend, enfin, je dis ça parce que moi je pense qu'il faut s'accrocher au fait qu'on tente quelque chose, et ça marche pas comme on veut, mais on apprend de ces choses-là, t'apprends de ce qui s'est passé pour essayer de faire autrement et mieux la prochaine fois, plutôt qu'échec, ouais,
voilà,
je veux dire.
C'est dans ce sens en fait que le mot échec... utilisé. Et du coup, maintenant, y a l'ouverture d'un débat dans plusieurs collectifs, entre plusieurs gens. Il y a eu aussi des bilans qui ont été tirés. La plateforme s'est réunie aussi entre elles. Et puis, voilà, pour l'avenir, savoir, ou en tout cas essayer de voir quelle modalité on peut mettre en place pour les gens qui sont plus sur des courants, on va dire, anticapitalistes, horizontales.
Oui, parce que
la diversité ou de convergence des luttes, ouais. Comment continuer, quoi.
Oui, parce que je pense que c'est ça, moi je pense, sur lequel il faut insister, c'est que l'important, c'est pas tant se manifester quand il y a un G7 ou un G20 ou un sommet. Par contre, c'est notre capacité à se mobiliser pour apprendre de ceux qui ont déjà bien avancé dans un processus d'autonomisation, un peu sortir et essayer d'apprendre aussi à construire collectivement. C'est un apprentissage, je pense aussi, qu'on doit avoir, d'être peut-être plus en réseau, aussi plus à l'écoute des uns des autres, et en sachant pourtant quand même justement mettre les limites au cadre qu'on veut. Enfin, et c'est bon, il y a un apprentissage, je pense que c'est important, toutes ces rencontres aussi. Bon, enfin, c'est ça, moi, en tous les cas, ce que je vois, c'est quand souvent on se rencontre et on est souvent déçu à la fin d'une rencontre, parce qu'on n'a souvent pas été au-delà, et on a l'impression de piétiner, mais j'ai l'impression que petit à petit, il y a des choses qui se font, qui deviennent peut-être de plus en plus évidentes, peut-être, sur la
Alors,
forme d'organisation.
Pour nous, on ne pouvait pas rester à la maison, quand même. On a eu... on va dire les pires ennemis du monde.
Ah oui, ah non, 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 c'était pas pour dire que ça servait à rien de se mobiliser. Ah non, 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 ouais. C'était pour dire que l'énergie, c'était pour...
porte de la maison, et du coup...
Ah non, ça, il fallait se mobiliser. Non, non, c'est ce que je voulais dire, c'était l'important, c'est tout ce qui se passe entre-temps, quoi. C'est ça, les rencontres, voilà, les intergalactiques en dehors de leur sommet, c'est ça que je voulais dire. C'était plutôt pour insister sur le fait qu'il y avait des gens qui existaient, justement, dans leur propre forme d'organisation, indépendamment de ces sommets. Plutôt mettre ça en avant, puisque c'est ça la réalité, c'est que t'es capable de te mobiliser parce que t'es déjà organisé aussi en dehors de cette question de se mobiliser pour le sommet.
Oui.
C'est ça, parce que c'est vivre l'organisation et les gens en résistance.
Voilà, donc c'est tout ça qui est maintenant, on va dire, sur la table, notamment ici au Pays Basque. Après, sur... faut-il organiser des contre-sommets ou pas à l'échelle mondiale? Bon, ça, c'est... On n'est pas à cette échelle-là, hein. On va pas...
Oui, bien sûr. Non, après, ça fait...
Comment il peut faire ce qu'il peut faire. Dans tous les cas, voilà, y a tout ça qui s'est passé, c'est une étape. On voudrait remercier aussi les personnes, tous les collectifs qui sont venus nous prêter main forte malgré toutes ces difficultés. Il y a eu quand même des beaux moments dans tout ça. Et puis, on a beaucoup appris, quoi, en fait. On a beaucoup appris, et notamment sur, on va dire, les contacts ou les accords. Alors là, ça a été un peu par défaut, mais aussi parce que peut-être qu'il n'y avait pas une volonté de la part de tout le monde d'être offensif. Mais en tout cas, on va dire, les négociations avec les autorités, ils nous ont donné aussi une belle leçon, on va dire. C'est-à-dire comment, à partir du moment où on met un pied là-dedans, on s'est fait manger, quoi. On s'est fait manger littéralement. Tous nos événements ont été conditionnés.
Ils ont pris le contrôle, ouais.
Vraiment, l'administration a mis le paquet, et puis avec une bonne connaissance du terrain, et puis évidemment épaulé par un état de siège, quoi. Parce que c'est vraiment. On a vécu sous un régime totalitaire, quand même. Hein,
ouais, pendant plusieurs jours, ouais.
Et bon, ça aussi, je pense que ça a montré un visage, le visage de Macron, qui pour se réunir avec ses consorts, et finalement,
est prêt à tout, hein.
A dû sortir des boucliers totalement disproportionnés. Mmh. On a vu le visage de la police aussi, maquillé derrière la démocratie, mais vraiment la manière arbitraire et totalitaire avec laquelle ils ont opéré. C'est vraiment violent, en fait. Le rapport qu'ils avaient aux gens, quoi. C'est-à-dire, même s'il se passait rien, ils sont venus chercher les gens, les provoquer. Il y a des gens qui se sont fait fouiller 8 fois d'affilée. Bon, les conditions de garde à vue étaient déplorables, tout ça, tout ça. Et puis, voilà, donc, de toute façon, nous, ça nous a pas refroidi sur notre envie de se coordonner, de continuer à lutter, de continuer à faire des liens. Des liens aussi qu'on a déjà entamés, notamment, avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, puisque tu en parlais. Et puis, on espère que les prochaines années, petit à petit, on mettra vraiment en route, ou on remettra en tout cas en route des mouvances qui nous correspondent et qui tiennent la route, quoi.
Et merci beaucoup de ton intervention. On va devoir laisser l'antenne au groupe qui vient derrière nous. Merci beaucoup. On espère. Ouais. N'hésite pas à nous, une fois par mois, on a notre programme, La Jungle des Luttes, 106.3 FPP. Merci à toi, à très bientôt. La Lucha Sigue.
Merci à toi, Ciao.
La Lucha Sigue, Sigue, merci.
¡Vamos!